let's hear now an example of correct microphone fluency.
Slippery.
When.
Wet.
Yep.
Never.
Slippery.
When.
Wet.
Slippery.
When.
Bonsoir, bonsoir. Vous écoutez Slippery When Wet sur Campus Grenoble 90.8 et ce soir, on vous propose un petit voyage électro d'influence indienne et on vous parle de Nitin Sone, donc un touche-à-tout qui mélange allègrement musique traditionnelle indienne et électro en rajoutant des morceaux de plein d'autres trucs pour assaisonner. Et Nitin Sone, il faut le dire quand même, c'est devenu une star britannique absolument incontournable et il a reçu quasiment une vingtaine de prix et récompenses pour son travail de compositeur, interprète, tout ça, tout ça.
Waouh, comme il se la pète.
Mais non, pas du tout. Ça a l'air d'être un gentil garçon. Alors, Nitin Sone, il est né en 1964 à Rochester, en Angleterre. Et oui, il est anglais. Et c'est là que ses parents indiens s'installent après avoir quitté Delhi. Et il grandit en entendant aussi bien de la musique traditionnelle indienne, comme on l'a dit, que du jazz et de la musique latino-américaine que son papa apprécie beaucoup. Tout ça en jetant une oreille quand même au funk et au rock que ses deux frangins écoutent tranquillement dans leur chambre. Donc, le petit Nitin Sone, il est multi-instrumentiste dès l'enfance. Hein, il commence le piano à 5 ans. C'est comme Mozart et Trent Reznor pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents de Slippery When Wet.
Et oui, on en avait fait un spécial Mozart aussi.
Oui, c'est vrai, ouais. Mozart électro. Et il apprend dans la foulée à jouer de la guitare, du sitar, du tabla, bref, c'est une star. Et du triangle. Mais sa vie de petit anglais issu de l'immigration indienne, elle est loin d'être rose hein, dans le Kent des années 70, puisqu'il doit affronter quand même les propos et les comportements racistes, des autres enfants. Mais aussi de certains de ses profs, et en particulier un de ses profs de musique, qui carrément lui interdit l'accès à la salle de répétition de l'école, parce qu'il veut pas qu'il joue de la musique traditionnelle hindoue. C'est bonne ambiance quand même dans le Kent dans les années 70.
C'est mal.
Et Sone, il le dit lui-même, qu'il concevait alors le fait de faire de la musique comme une sorte de résistance envers ce racisme autour du principe de l'expression née de l'oppression. Voilà, j'ai du mal avec...
Vous avez trois heures.
Voilà, composé. Et voilà, donc sur ce principe de base de composition de Nitin Sone, on va quand même écouter un peu de musique et surtout deux grosses influences côté musique indienne. Il s'agit tout d'abord et à venir de Nusrat Fateh Ali Khan, un titre qui s'appelle Must Must, je ne sais plus. Ça, c'est extrait de l'album du même titre, Must, qui est sorti chez Real World Records en 1990. Et derrière, il y a même un petit bout de remix par Massive Attack qui figure sur le même album. Et ensuite, ce sera Ananda Shankar avec un titre que j'aime beaucoup, ça s'appelle Streets of Calcutta, extrait de l'album Ananda Shankar and His Music. C'est sorti chez His Master's Voice en 1975 et j'ai quand même oublié de désannoncer le titre qu'on a écouté en ouverture de l'émission. Il s'agissait de Voices, extrait de Displacing the Priest, un album de Nitin Sone qui est sorti chez Outcast Records en 1996. Voilà, c'est parti.
मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त दूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त
Tu parles pas assez près du micro. Okay. Ah non, voilà, c'est bien, c'est
ah
bon.
Bah c'est Lionel qui
c'est moi qui me trompe à la console.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Ananda Shankar avec Streets of Calcutta et juste avant The Must par Nusrat Fateh Ali Khan, qui est le Elvis Presley du Pakistan, une vraie légende, ah ouais, vraiment incontournable.
On l'appelle Nusrat de Pelvis.
Enfak, voilà, c'est ça. Il est incontournable, y compris physiquement, un peu comme Elvis avant sa disparition. Donc, c'est le chanteur de Qawwali, qui est une musique traditionnelle soufie qu'il a fait découvrir à l'Angleterre en signant sur le label de Birmingham au début des années 80. Après, il a donné plein de concerts à travers l'Europe et puis il a aussi collaboré avec des artistes de jazz ou de trip-hop comme on a pu l'entendre juste avant. Avant lui, avant Nusrat Fateh Ali Khan donc, d'autres musiciens indiens avaient déjà commencé à populariser la musique du nord de l'Inde et à expérimenter les mélanges avec la musique occidentale. Alors on peut citer le pionnier Ravi Shankar, qui dès les années 40 a joué en Angleterre et qui a mélangé son sitar avec le violon de Yehudi Menuhin. Ou alors Ananda Shankar, aucun lien fils unique. Ananda Shankar, c'est donc celui qu'on vient d'entendre. Et lui, dans les années 60 et 70, il a fait des reprises des Doors au sitar et il a joué avec Jimi Hendrix. Il a particulièrement influencé la musique anglaise dans les années 80 et 90, où on reprend sa musique dans les clubs londoniens.
Bon, ça... sacrée référence quand même tout ça.
Voilà, donc ça part de loin. Donc pour en revenir à Nitin Sonnet, avant de se consacrer entièrement à la musique, il commence des études de droit à l'université de Liverpool. Et c'est à cette époque que se produisent les premiers événements déterminants pour sa carrière d'artiste.
Attention.
Par exemple, son colloque avec lequel il va créer une série comique pour la radio qui deviendra ensuite une série TV qui remportera pas mal de succès sur la BBC. Donc ça le lance déjà un peu. Et puis surtout, vers la fin de ses études à Liverpool, en 88, il a l'opportunité de partir en tournée avec un vieux pote à lui, qui vient aussi de Rochester, hein, et il s'agit de James Taylor.
James Taylor.
Qui est clavier et leader du James Taylor Quartet.
Eh bah oui, c'est lui.
Donc après cette expérience, Nitin Sonnet décide de monter sa propre formation de jazz, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, donc c'est les Jazz Stones.
Ça, c'est original.
Voilà. Avec qui il aura l'occasion de jouer dans des concerts londoniens organisés par des DJ versés dans le mélange jazz, rock, musique électronique, comme Giles Peterson. Donc, ça va, c'est pas mal comme référence pour un début musical.
Moi, je connaissais Oscar à cause de...
à cause de Michel Jonas. Oui, mais c'est pas... donc, aucun lien fils unique.
Voilà. Donc à la suite de son aventure avec les Jazz Stones, Sonnet va également former le T-High Trio, dans lequel il revient plutôt vers ses racines musicales traditionnelles, et il est accompagné d'un joueur de tabla nommé Talvin Singh, dont on va reparler plus tard. Et c'est juste après cette expérience avec le T-High Trio, au début des années 90, qu'il commence à travailler en solo sur son premier album qui s'appelle Spirit Dance, qui est sorti en 94, sous l'influence trip-hop d'artistes en particulier comme Massive Attack.
Qu'on a écouté tout à l'heure, c'est d'une cohérence sans faille, cette émission.
Donc, on va écouter un titre d'un de ses premiers albums, donc pas le premier, mais le deuxième, où l'influence de la musique traditionnelle indienne est vraiment incontestable, comme l'indique le titre, d'ailleurs, Punjabi, parce que la musique du Punjab, c'est une des grosses influences de la musique anglaise, anglo-indienne, on va dire.
C'est bon, on a tous les mots dans
de cette époque-là. Voilà, donc on va commencer avec la chanson Punjabi, donc sur l'album Migration de Nitin Sonnet, qui est sorti toujours chez Outkast Records en 95. Et puis ensuite, on enchaînera avec un de ses contemporains, State of Bengal, avec le titre Elephant Ride, qui est sorti de l'album Visual Audio. Ça, c'était sur One Little Indian en 1998.
Punjabi.
Vous écoutez Slippery When Wet sur Campus Grenoble 90.8. On vient d'entendre dans l'ordre Nitin Sonnet avec un titre qui s'appelle Punjabi. Nitin Sonnet à qui est consacrée l'émission de ce soir, et son titre était suivi de State of Bengal avec un Elephant Ride pour le morceau. Alors grâce à Nitin Sonnet, on va parler un peu plus généralement de ce courant musical assez largement anglais quand même au départ, qui mélange électro, soul, jazz avec de la musique du nord de l'Inde et du Pakistan, et qui est produit initialement par les enfants d'immigrés indiens et pakis chez les Rosebif. Au commencement, dans les années 80, était le Bhangra.
Oui, alors ça se passe à la mousson, parce que dans Bhangra, il y a de l'eau.
Oui, mais il y a des fruits aussi. Et donc, dans le Bhangra, c'est un style de musique complètement inspiré de la culture musicale du Punjab indien et pakistanais, mais joué par des immigrés de la première et deuxième génération en Angleterre. Ça reste très premier degré. Hein. Allez jeter un coup d'œil au clip de Hira, ça s'écrit H2ERA sur YouTube, par exemple, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Les chanteurs ressemblent à qui ? À Framboisier.
Ouais, moi, je trouve que c'est Framboisier dans les musclés.
Voilà, pour la coupe de cheveux, c'est quand même assez semblable.
Et la moustache.
Et c'est peut-être les années 80 qui font ça. Bref, heureusement, la scène se diversifie sous l'appellation plus vaste de Asian Underground et rassemble des artistes aux sensibilités variées qui peuvent pencher vers le trip-hop et le jazz, comme Nitin Sonnet, mais aussi vers le hip-hop comme Asian Dub Foundation, qu'on va écouter tout à l'heure. Ou encore vers la jungle et la drum and bass comme Punjabi MC ou Trans Global Underground ou TJ Remy, qu'on va écouter tout de suite.
C'était pas petit Grégory ?
Non, c'est pas TJ Remy. Ou encore, on peut citer Talvin Singh, dont on parlait tout à l'heure, donc l'ex-compagnon de groupe de Nitin Sonnet, qui fait beaucoup pour faire connaître tout ce petit monde, notamment à travers un club londonien emblématique qui s'appelait, ou qui s'appelle encore d'ailleurs, je sais pas, le Anoka. Et une compilation qui fait date en 97 qui s'appelle Sounds of Asian Underground. Alors, on va écouter, pour illustrer tout ça, tout de suite, TJ Remy avec un titre qui s'appelle Who Killed Bhangra, extrait de l'album Mind Filter, sorti chez Nation Records en 98. Et ensuite, ce sera Nitin Sonnet avec Distant Dreams de l'album London Undersound chez Cooking Vinyl en 2008.
We'll be right back. I see faces I know, all in their different zones. As we're flying through this world underground, and my eyes are wide shut, I'm not hearing a sound. Time standing still, surrounded by sad hearts unfulfilled. Empty places for the disenchanted, pass and fade away. Where I go, when I'm low, as they echo in my head. How they flow, moving slow, as I'm falling out of time. I still have distant dreams here in my mind. Faces distorted by pressure, everyone forced together, spilling out through the doors. No more spaces, it's a dog-eat-dog world. Under my 3-4-0, maybe room for one more. Time standing still, surrounded by sad hearts unfulfilled. Empty places for the disenchanted, pass and fade away. Where I go, when I'm low, as they echo in my head. How they flow, moving slow, as I'm falling out of time. I still have distant dreams here in my mind. I still have distant dreams here in my mind.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 98, c'est Slippery When Wet. Et on vient d'écouter successivement T. Jeremy avec Who Killed Bangra, puis Nitin Sonnet avec Distant Dreams, un titre où il s'écarte un petit peu plus de ses influences.
C'était bien cette
Asian
proposition jazz bossa. Voilà. Ouais, ça m'a donné envie de reprendre un whisky et de m'allonger.
Ouais, ouais, on est un peu endormis.
On
là,
est un peu à deux à l'heure aujourd'hui, vous nous excuserez.
Mais bon. Et donc, pour digérer tout le name dropping que Lionel nous a fait juste avant cette petite écoute, on va digérer ça avec la chronique de Catherine.
Yes.
Ou alors là, j'avais prévu d'essayer de vous faire croire que Delphine et Lionel étaient perchés sur la table depuis qu'on avait mis Who Killed Bangra, mais en fait, ils ne sont pas du tout d'attaque. Alors bon, tant pis.
J'avais peur de tomber de la table, en fait.
Donc j'avais besoin d'eux pour qu'ils compatissent, parce que, en fait, voilà, je commence à sécher. Bon, ça n'a rien à voir avec l'épidémie de grippe, avec les surinfections, ça aurait plutôt l'effet inverse au niveau des sinus. Non, c'est juste que, exhumé tous les mois, un garçon avec lequel l'interaction était à la fois torride et instructive, mais que quand même il ne se soit rien passé avec, bah, c'est un challenge. Et le problème, c'est que challenge, comme plein de bonnes musiques et on s'y connaît, c'est anglais. En bon français, il faudrait dire gageure. Mais le problème avec les challenges français, c'est que ça ne s'écrit pas comme ça se prononce, puisque ça s'écrit gageur, G-E-U. Ce qui induit d'erreur, c'est que ça ressemble à courageux, qui ne se dit pas courageux, et que courage ne s'écrit pas courageure. Donc si on veut absolument relever des gageures, ça me semble important de réformer l'orthographe pour repopulariser ce joli mot. On pourrait par exemple écrire avec un J comme courju, le court-circuit qui sous-tend cette émission. Ce qui n'a rien à voir avec courge, qui n'est pas à courjus, que courage est à courageure. Après, je ne sais pas si ce changement d'orthographe serait suffisant pour aider au sauvetage de gageure. Pourquoi ? Parce que gageure, ça vient de gage, et ça, ça fout tout en l'air. Genre, hey mec, si t'arrives pas à rencontrer ce challenge, t'auras un gage. No way. En français, pas de route. Donc, on va rester sur challenge. Rien à voir avec la superstition en pays arverne. Et celui qui permet de relever le challenge et de quitter le début de l'alphabet, c'est Fabien M.
Ah, finalement.
Fabien M. Alors Fabien M, lui, il avait tout compris à la vie. Beau gosse à la voix grave et veloutée, il avouait volontiers être devenu écrivain pour scorer encore plus facilement. Un peu plus tard, il a doublé son potentiel en devenant éditeur. Du miel en barre. C'est bien connu que, comme avec les metteurs en scène, le petit cadeau Bodux est très apprécié en accompagnement de la moindre des sollicitations. C'est pourquoi, dûment nanti d'un manuscrit, je l'ai truffé de plein de petits signes subliminaux destinés à faire comprendre à Fabien M. que oui, bien sûr, j'étais prête à tout. Pulvérisation de Chalimard, traces de rouge à lèvres, emballage du manuscrit dans diverses étoffes froufroutantes pour susciter l'emballement et, cerise sur le gâteau si je puis dire, dissémination de poils pubiens dans le scotch qui entourait le tout. Ça a marché. Il m'a écrit qu'il me voulait.
Est-ce que c'est Chalimard ou les poils pubiens qui ont marché?
Je ne sais pas.
On ne sait pas.
Bref, nous avons entamé une correspondance d'une intensité rare, atteignant parfois la cinquantaine d'échanges par jour. Et dernièrement, il m'a demandé à mouiller mon maillot. Un peu grelottante, on est quand même en février, je m'apprêtais à passer devant la webcam pour qu'il puisse admirer mon wet t-shirt enfilé rien que pour lui, mais à ce moment-là, il a précisé en quoi consistait son fantasme. Rencontre, bon, ça je m'y attendais. Dédicace, ça avait l'air tout de suite moins salace. Salon du livre, hein? Ben oui, cocotte, maintenant que ton recueil est sorti, ton recueil de nouvelles, je suis pas un gros éditeur, faut faire de la pub. Si tu connais pas de journaliste prêt à te faire des articles laudateurs, ben faut mouiller le maillot. Alors depuis, je passe ma vie à écrire à des gens que je ne connais pas pour leur dire combien « La fuite est un art lointain », je répète, « La fuite est un art lointain » est un livre hautement recommandable. Et comme c'est vraiment de la pub et que le titre est un peu long, je vais voir avec Delphine et Lionel si on peut pas mettre un lien sur notre blog. Vous savez, celui auquel vous pouvez arriver en passant par exemple par le site de Radio Campus.
Par exemple.
Pour en revenir à nos moutons mâles, je n'ai toujours pas rencontré Fabien M. IRL et il ne m'a pas demandé ce qui était coincé dans le scotch. C'est toujours une grande déception quand les gens n'utilisent pas le pouvoir qu'ils pourraient avoir sur vous. Je crois que je vais essayer de m'upgrader éditeur.
Voilà, cette chronique contenait donc du placement de produits, comme vous l'aurez remarqué. Mais...
produits disponibles dans toutes les bonnes librairies grenobloises, d'ailleurs.
Voilà, et produits de qualité, étant parmi les premiers lecteurs non éditeurs de la chose. Je dois quand même dire que je vous encourage fortement à aller chez votre libraire
très
favori.
Bien, c'est très bien.
Et acheter La fuite est un art lointain.
Voilà. Bon, on peut quand même noter en passant que Catherine est quand même un spécimen rare qui préfère se faire admirer pour ses poils pubiens que pour son intellect, mais bon, c'est une question de goût. Pour en revenir à nos moutons, donc on va continuer à parler de Nitin Sonnet, qui comme on l'a entendu donc avec cette magnifique chronique, ne fait pas que dans la musique d'inspiration indienne, loin de là. En fait, il a touché un peu à tout, hein, de la soul à la pop, en passant par la drum and bass et le flamenco, ce qui donne du coup des albums très différents les uns des autres, et certains, il faut bien dire, plus digestes que d'autres.
Hein. C'est vrai, c'est pas tout d'égale qualité.
Voilà, il a collaboré avec un panel d'artistes d'un éclectisme absolument stupéfiant, hein. Ça va de Shakira à Brian Eno en passant par le London Symphonic Orchestra ou Horace Andy.
Est-ce qu'il a accepté de se mettre en maillot de bain aussi, Brian Eno?
Je sais pas, je lui ai pas demandé. On peut même citer une collaboration assez malheureuse avec Paul McCartney qui a couché d'une belle bouse l'album London Under Sound. On vous la passera pas donc.
Non.
Mais il a aussi composé des musiques de jeux vidéo, il a beaucoup remixé, il sait faire mixer, il a aussi écrit pour le cinéma, il a une dizaine de bandes originales de films à son actif. Pour la télé, pour le théâtre, pour la danse. Et il compose de la musique classique. Bref, bon, un mec qui prend pas de vacances, quoi. Voilà. Mais nous, par contre, on en prend et on va en prendre avec la petite récré traditionnelle.
Allez. Alors, à quoi on joue aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on va jouer à qui fait de la jeune underground et qui fait du trip-hop. Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé de Massive Attack depuis le début de cette émission, donc on va vous faire deviner. Parmi ces deux extraits, lequel est Massive Attack et lequel est Nitin Sonnet ?
Allez,
attention,
c'est parti.
Ça commence.
Extrait numéro A.
Ça, c'est Shakira.
Ah, oui, c'est Shakira, bien sûr. Bon, ça sent bien, là.
J'aurais dit Horace McCartney, moi.
Voilà. Et maintenant, extrait B.
Oh, bah, ça, c'est facile.
Ouais, c'est facile. Hein.
Du coup.
C'est facile, hein, du coup.
On entend bien la musique indienne, quand même, non ?
Voilà. Bah oui, exactement.
me serais-je laissé abuser.
Et du coup, bah, celui-là, c'est Massive Attack.
Non.
Et oui, mais non, mais les vrais connaisseurs auront reconnu le début de Inertia Creep sur l'album Mezzanine, le fameux album Mezzanine. Donc, en 1996, on voit que Massive Attack, c'est lui qui pioche dans la musique indienne, alors qu'à leur début, les artistes du Asian Underground ont quand même beaucoup profité de l'influence du trip-hop et donc de Massive Attack.
Ah, tout ça est très entrelacé,
voilà, donc, tout
finalement.
Ça, c'est très réciproque, finalement. Du coup, on va commencer par écouter le Nitin Sonnet en anglais aussi.
En anglais aussi.
Donc, c'est un titre qui s'appelle Nothing, qui est sorti de l'album Prophecy, qui est sorti sur V2 en 2001. Et puis ensuite, on écoutera, pour changer un petit peu de style, un morceau de Asian Dub Foundation, qui est un peu plus hip-hop. Le morceau s'appelle Debris et c'est sorti de l'album Facts and Fictions, que je vous recommande si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un album
ça
super.
Ça dépote un maximum.
C'est sorti sur Rough Trade en 1995.
Words. Don't touch the wall, just wait in my brain. I've got music, technology, driving me in. never had the feeling to either destroy or conquer.
I said, forget the day where you left in your wake, and when you pushed us into third place. When the truth is uncovered and the story's been told, you won't be able to look me in the face.
Ah, ça s'arrête net, Catherine, elle n'est pas prête. Oh là là, là, là.
Et bien, si vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 en train d'écouter Slippery When Wet, évidemment, on vient d'entendre Nothing de Nitin Sonnet qui n'a rien à voir avec rien de notre dernière émission sur Schrom. Et puis après, on a entendu Débris de ASEAN Dub Foundation et tout de suite la discographie. Alors, en 94 chez World Circuit, Nitin Sonnet a sorti Spirit Dance, puis suivi de 3 albums chez Outcast Records. Migration en 95, Displacing the Priest en 96, Beyond Skin en 99. Ensuite, il est passé à V2, chez lequel il a fait également 3 albums, à savoir Prophecy en 2001, Human en 2003 et Filtre en 2005. Ensuite, London Under Sound en 2008 chez Cooking Vinyl, Last Days of Meaning en 2011 chez Positive ID, 10 en 2013 chez Sherry Red Records et enfin apparaître en 2015 toujours chez Sherry Red Records.
En pleine actualité de Nitin Sonnet.
Dystopian Dreams. Dream. Il y en a qu'un. En fait, il est dystopique, il y en a qu'un.
Oui, on va être modeste.
Et donc maintenant, on va entendre Bengali Song, toujours de Nitin Sonnet. De l'album Displacing the Priest chez Outcast Records en 96. Suivi de The Berber of Seville, et c'est bien The Berber, le Berber et pas le Barbier, par Bombay Dub Orchestra, de l'album Éponyme, Bombay Dub Orchestra chez Six Degrees Records en 2005.
Pote phul apun sukhe tar ishara ফুটে ফুল আপন সুখে ফুটে ফুল আপন সুখে ফুটে ফুল আপন সুখে কার ফুটে ফুল আপন
Voilà, on vient d'écouter un titre de Nitin Sone, ça s'appelait Bengali Song, extrait de Displacing the Priest, et juste après ça, c'était Bombay Dub Orchestra avec The Berber of Seville, extrait de l'album éponyme. Tiens, on parle un peu du coup des artistes qui ont été influencés par des gens comme Nitin Sone, puisque dès les années 90, le genre électro, indo, etc., diffuse pas mal, notamment dans le trip-hop, on en a déjà pas mal parlé pendant l'émission, et depuis, ça s'est beaucoup diversifié, puisque les thèmes indiens sont par exemple devenus des incontournables dans les morceaux de R&B, et même Missy Elliott se fend de quelques samples indiens. Et à noter aussi que comme Bombay Dub Orchestra qu'on vient d'écouter, le genre a été pas mal investi par des tout nouveaux venus qui n'ont pas la moindre racine indo-pakistanaise, et preuve que l'Asian Underground est devenu une partie de la culture british à part entière. Et donc Nitin Sone contribue pas mal à tout ça grâce à sa visibilité et aussi parce qu'il a fait beaucoup d'émissions de radio sur la BBC pour faire connaître par exemple Nusrat Fateh Ali Khan. Et c'est aussi un producteur prolifique, par exemple de l'album d'Anushka Shankar, l'une des filles de Ravi Shankar, et aussi la demi-sœur de, comment s'appelle-t-elle déjà, Norah Jones, voilà. Et donc on va écouter un titre tout de suite d'Anushka Shankar, hein, pas de Norah Jones, pour conclure cette émission. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle Maya, qui est extrait de l'album Traces of You, qui est sorti chez Deutsche Grammophon, figurez-vous, en 2013, donc Anushka Shankar. Et c'est avec ça qu'on va terminer ce Slippery When Wet sur Campus Grenoble 90.8, voilà. Là, bah écoutez, sur ce,
bonne soirée,
les amis, bonne soirée, et puis au mois prochain, bye bye.